Sante, pouvoir à Lisiane Grosbon.
Biaise Michel.
Présent.
Baumler Laurent.
Présent.
Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie.
Présent.
Kérol Evelyne.
Présente.
Clos Marie.
Présent.
Coulet Dominique, absente, pouvoir à Patrick Fleury. Cournil Jean-Jacques.
Présent.
Dumont Laurence.
Présente.
Fagot Edwige. Absente. C'est arrivé. Fleury Patrick.
Présent.
Fourdrin Stéphanie, absente, pouvoir à Odile Arnoux. Gagzinski Nicolas. Absent. Grosbon Lisiane.
Présente.
L'ami Christophe. Absent. Le Mercier Jean-Claude. Absent. Merlin Marie-France.
Présente.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe. Absent. Raguido Cécile.
Présent.
Raoui Ferrugia.
Présent.
Sauvage Patrick. Absent. Stéphane Patrick.
Présent.
Présent. Dix-huit présents. On est sur le même chiffre. Donc, le quorum est atteint, la séance sera valide. Secrétaire de séance. Evelyne Kérol se propose comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Evelyne Kérol, secrétaire de séance. Bon, les pouvoirs reçus, je les ai déjà cités. L'ordre du jour. Alors, après l'élection du secrétaire de séance, il y aura l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 19 décembre 2016. Ensuite, la lecture des décisions de droit de préemption urbain. Nous aurons ensuite la programmation 2017 pour nous autoriser à demander les subventions au titre de la DETR et du Fonds de soutien à l'investissement local. Point suivant, contrat enfance-jeunesse, caisse d'allocation familiale motorisée à signer le contrat. Ensuite, nous parlerons de la vente d'un bien 26 rue de la République. Et puis, nous présenterons en information donc le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement eau usée de l'année 2015. Et après, nous aurons une petite information aussi sur le bilan bibliothèque. Alors, on y va. Donc, premier point de l'ordre du jour, le procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 19 décembre 2016. Y a-t-il des questions? Des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Décision de droit de préemption urbain. Nous n'avons donc pas exercé notre droit de préemption urbain. Les différentes demandes que nous avons reçues. Donc, la SCI du chemin de Saint-Sauveur, deux routes de Saint-Sauveur. Ensuite, nous avons reçu une demande de Monsieur Roguedas Xavier, 8 avenue du Général Sébert. De Monsieur Roguedas Xavier, encore rue du Port. De Monsieur Roguedas Xavier, 14 rue du Port. Arrivé d'Edwige Fagot. Il est... Quelle heure?
20h11.
Bien, point suivant de l'ordre du jour, programmation 2017. Donc les projet de travaux, demande de subvention au titre de la DETR et du FSICL. Pardon, du FSIL, pardon. Donc, dotation d'équipement des territoires ruraux pour la DETR.
Cécile.
Il faut laisser la porte ouverte.
C'est une obligation.
Merci.
C'est public.
C'est comme les mariages. Bien, je reprends. Donc, sur les travaux, qui ont d'ailleurs fait l'objet, pour la plupart, même tous, de discussions en commission des travaux. Donc, ces demandes de subventions doivent être poussées à la sous-préfecture avant le 3 février 2017, ce qui, notamment, contraignait le calendrier, nous contraignait à tenir cette réunion aujourd'hui. Donc, on nous demande de pousser au maximum 3 dossiers sur les 2, hein, dotation d'équipement des territoires ruraux et fonds de soutien à l'investissement local. Nous avons donc préparé 3 dossiers. Je rappelle que l'an dernier, nous avons à la fois bénéficié de la dotation des équipements des territoires ruraux et du fonds de soutien à l'investissement local, notamment pour la rue de la République. Donc c'était la première année, l'année zéro de ce fonds de soutien. Il a été reconduit par le gouvernement et cette fois-ci, dans les demandes, en fait, ils fusionnent les deux et on demande, on dépose les dossiers en même temps. Hein, pour ces 2 points qui font l'objet de priorités un peu différentes. Donc aujourd'hui, les 3 dossiers que l'on vous présente, le premier pour lequel d'ailleurs nous avons déjà demandé une subvention au conseil départemental, c'est le dossier de travaux de rénovation de l'école maternelle. Le montant du devis étant de 270 440 euros hors taxes pour la réfection partielle de la toiture. Donc c'est la partie de la toiture la plus récente, mais malheureusement les tuiles se sont délitées. Enfin, on a déjà parlé de ce problème. La réfection de la cour qui est en tôle ondulée, donc il faut que les enfants soient plus en sécurité. Et on a donc récemment coupé les arbres après une longue discussion pour que si on refait la cour, eh bien dans 4 ans, il n'y ait pas de nouveau des racines qui soulèvent l'enrobé. Maintenant, on replantera des arbres, mais à pousses contrôlées, pour que justement les racines conservent d'abord plutôt des racines plongeantes, et ensuite qu'elles conservent des dimensions raisonnables. Et troisième point, et c'est le plus lourd, le remplacement total des menuiseries, portes et fenêtres, menuiseries qui sont très anciennes, qui mérite d'être rénové à plusieurs titres. Il y a d'abord un problème d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et il y a ensuite de la rénovation thermique puisqu'on va mettre des choses qui effectivement vont être plus performantes. Et puis ensuite, la structure elle-même puisque la structure actuelle est quand même très vieillissante et défaillante. Donc, après discussion... sur cette affaire-là. En fait, la réfection de la cour et la réfection partielle de la toiture, elle, c'est sûr, n'ouvre pas droit au fonds de soutien à l'investissement local. Ça, c'est le premier point. Parce que ça n'entre pas dans les priorités. Pour ce qui est de la dotation d'équipements des territoires ruraux, le plafond est limité à 170 000 euros. D'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est les menuiseries représentant un montant de 219 280 euros sur les 270 000, c'est de demander la subvention sur les menuiseries, donc sur 220 000 euros, à quelques euros près. Celle-ci pourra alors être couverte à la fois par la dotation d'équipement des territoires ruraux et par le fonds de soutien à l'investissement local. Ce qui nous permettra, quand on complète avec ce qu'on a demandé au département, d'avoir au total une subvention de 80% de ce montant, si bien sûr tout ça nous est accordé. Ce qui ferait une subvention, si je ne me trompe, globale, si on a les trois, de 175 424 euros, sachant que environ 68 000 euros vient du département, 76 500 euros pourraient venir de la DETR et 30 947 euros pourraient venir du fonds de soutien à l'investissement local. Voilà, ça donc c'est le premier dossier. Alors on va y aller dossier par dossier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier dossier ? Bon, très bien, on continue. Deuxième dossier, aménagement d'une aire de jeu dans le parc du château d'Aramon. Donc pour un montant de 54 905,90 euros, sachant que c'est subventionnable au titre de la DTR avec un taux de 30%. Ce qui nous amènerait, je cherche le papier, à avoir 16 471 euros de subvention au titre de la DETR. Alors, il ne s'agit pas d'une nouvelle aire de jeu, il s'agit bien de refaire, d'améliorer l'aire de jeu existante, d'une part en remplaçant le sol souple. Je parle sous le contrôle de l'adjoint travaux.
Sauf si c'est un montant maximum.
Oui.
Sauf si il y a un contrôle qui doit être fait par l'eau.
Oui. Je m'en rappelle plus du le HIC. Le contrôle de l'indice d'absorption des sols souples. Et on sait qu'il s'altère avec le temps. Et donc maintenant, la législation nous oblige, depuis cette année, à faire un test tous les 3 ans. Donc là, on attend par contre que les conditions atmosphériques soient plus chaudes parce qu'on ne peut pas faire un test à 0 degré. On peut venir parce que
c'est difficile.
Donc on a encore, dans le projet, on a englobé la totalité en disant que peut-être que le test sera négatif.
Donc si le test est positif, ça sera beaucoup moins.
Si le test est positif, on verra à ce moment-là en fonction des résultats du test. Ouais. Parce qu'il y a aussi, il faudra se poser la question de savoir. Voilà, si on remet du neuf autour de l'ancien, voilà, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes ? Là, ça sera aussi à voir. Alors, ce qui est prévu dedans, ça, c'est le poste le plus lourd. Ce qui est prévu aussi, c'est d'y mettre une clôture tout autour. Donc ça, c'est environ 6 à 7 000 euros. Attendez, je vous retrouve les chiffres exacts. Pardon ?
7 000 euros.
7 000 euros. Et puis ensuite, d'y mettre quelques jeux complémentaires. Alors, cette aire de jeu, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour les familles avec des jeunes enfants. Très intéressant à plusieurs titres. Le premier, c'est d'abord l'expérience. On constate que dès qu'il y a un rayon de soleil, il y a du monde sur cette aire de jeu. Donc, c'est déjà un investissement utile. Et puis ensuite, ça permet aussi, c'est l'occasion pour toutes les familles de se retrouver, je dirais... quelles que soient les origines, quels que soient les lieux d'habitation, de se retrouver avec les enfants à cet endroit-là, dans le parc du château. Donc c'est quelque chose de très agréable. C'est notre deuxième dossier. Y a-t-il des questions sur ce dossier ?
Enfin, on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes, des adolescents qui vont sur les jeux et qu'il ne se passe rien. Ils font ce qu'ils veulent, les adolescents.
Oui.
Alors moi j'ai pensé à une chose, vous avez une caméra de surveillance qui se trouve au coin du château. Est-ce qu'avec la caméra de surveillance on peut voir sur le parc ?
La caméra de surveillance permet effectivement de surveiller l'espace de jeu.
D'accord.
Elle couvre quand même ?
Oui, elle couvre l'espace de jeu.
Non,
je confirme.
Il y a quand même les jeux qui sont là, il y a eu beaucoup de dégradations provoquées par les adolescents.
Là je serais quand même, vis-à-vis de ce que tu dis... Je serais assez modéré, c'est-à-dire que quand on voit, c'est en place depuis 2008, je crois, ou quelque chose comme ça, même peut-être un peu avant.
Avant. C'est vrai que ça a bien résisté.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, Michel.
2003-2004,
au niveau des jeux,
C'était pas qualifié.
Il n'est pas dégradé énormément. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur les tapis qu'il y a actuellement en anti-blessure, c'est rempli de cailloux. Les cailloux, ils n'arrivent pas par Saint-Esprit.
Ceux d'avant, ils avaient été très dégradés.
Ouais, mais ceux-là,
c'est ça qui est.
Mais là, il faudrait.
C'est là que j'ai connu, moi.
Quand tu vois que des enfants qui sont en train de jouer, qu'il y a des adolescents qui arrivent.
Oui. Déjà, un des premiers actes, c'est que maintenant, ça va être, alors ça évitera aussi parfois que des animaux y aillent, ça va être clôturé. Donc ça, c'est déjà un premier point. Je ne dis pas que ça empêchera des adolescents de 14, etc., d'y aller. Ensuite, on peut très bien mettre, effectivement, que l'espace est sous vidéosurveillance, ce qui est exact.
Ah, oui, ça, sans plus dire...
Le fait de le clôturer aussi, ça va permettre évidemment peut-être d'éviter que bon, il y a quand même un passage, une barrière à passer, donc ça évitera peut-être à certains d'y aller, quoi.
En fait, je pense qu'il...
Si on voit quelqu'un de 15 ans dedans, on nous demandera d'aller voir ailleurs.
Puis le dernier point, si vous passez, que vous voyez que certains y sont et ne devraient pas y être, on peut toujours leur faire remarquer. Voilà, est-ce qu'il y a... Enfin, ça ne remet pas en cause l'intérêt de cette aire de jeu, en intervention. Y a-t-il d'autres questions sur l'aire de jeu ?
Ben moi, j'ai également, avec ce qui s'est passé avec la tempête, je pense qu'il sera peut-être bon, peut-être d'élaguer peu aux alentours les arbres lorsqu'on fera l'opération.
Il y a quand même des branches qui vont être
élaguées. Hein. Ouais. Il y a quand même pas mal d'arbres autour, et ne serait-ce que déjà pour l'entretien et niveau sécurité.
Puis éviter la casse sur les jeux. C'est une branche tombe dessus.
Alors, on a commencé l'entretien du parc. On a déjà coupé quelques arbres, même. Ça ne se voit pas, c'est normal, puisqu'on ne coupe pas tous les arbres. Il y en a qui étaient en mauvaise santé. Il faut continuer dans cette voie-là, c'est clair. Tu as raison. On commence à avoir des arbres qui sont en mauvaise santé. Alors, il faut avoir les personnes qui, effectivement, en fonction des variétés, de l'âge, de l'état visible, disent que cet arbre-là est dangereux. Mais ça en fait partie, oui. Deuxième dossier, d'autres questions ? Troisième dossier. Donc le troisième dossier, c'est la réfection de la toiture du centre social. En fait, il ne s'agit pas de toute la toiture, il s'agit du pan de la toiture qui longe la rue de la République et de celui qui longe la rue des Ormes. Hein, ça fait donc le coin. Oui. En fait, à un moment donné, pour revenir dans l'anecdote, on était rue de la République au moment des travaux avec le maître d'œuvre, là. Puis, je ne sais pas pourquoi, on a levé les yeux. Et là, d'un seul coup, on a vu l'état du toit. Et on s'est dit que ça ne pouvait pas durer bien longtemps comme ça.
Dans la gouttière.
Il y avait des tuiles dans la gouttière. On voyait vraiment qu'il était extrêmement dégradé. Hein. Depuis, on a envoyé, évidemment, si on vous propose quelque chose, c'est qu'on a fait faire un devis. Et donc on referait le toit en petites tuiles comme il était.
Ah oui.
Hein, c'est ça. On le refait à l'identique. Hein, d'où les 42 867,50 euros hors taxes.
Oui, beaucoup de mousse.
Oui, beaucoup de mousse. Puis les tuiles, je pense qu'elles sont. Puis il y a les cheminées à démonter, sont comprises dedans.
Alors, parlons de tout parce qu'on n'a pas encore étudié si vraiment elles n'étaient plus utilisées.
D'accord. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir également. Alors, ce serait une subvention à 40% si elle nous est accordée. C'est notre troisième dossier. Donc ce qui ferait 17 147 euros de subvention et 25 720 euros de sur fonds propres. Question sur la rénovation de cette toiture ? Non. Très bien. Donc comme on vous l'indique, une délibération sera prise pour chaque dossier. Je vous propose donc d'approuver le projet de travaux qui vient d'être évoqué, de solliciter les subventions de l'État dans le cadre de la DETR et du fonds de soutien à l'investissement local, de financer le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit aux articles 2313 du budget de l'exercice 2017 et de s'engager à inscrire chaque année au budget les sommes nécessaires à l'entretien de cet investissement afin d'en assurer la pérennité.
Je reviens juste sur le
dossier. Vous voyez là dans la cour des maternelles, vous avez retiré tous les jeux pour les enfants ?
On a retiré un jeu pour les enfants. Ma connaissance. Hein.
C'était un bac à sable en fait.
Oui, il y avait le bac à sable.
Donc il n'était plus utilisé depuis longtemps.
Et puis l'autre.
On devait le retirer, mais à l'époque il y avait le camion qui était en panne, donc les ouvriers n'ont pas pu le retirer. Donc quand le camion est arrivé, c'est une coïncidence en fait. Enfin, c'est presque une coïncidence. Quand le premier jeu a été retiré par mesure de sécurité, là, le petit château, les gars venaient d'avoir le camion et du coup, ils ont profité du passage pour retirer. Voilà.
Mais le premier jeu, comme vient de le dire Laurent, c'est un problème de sécurité.
Mais l'autre jeu qu'il y avait là...
Le petit train, là.
Ah, le petit train, il est toujours.
Avant, c'était une sorte de petit toboggan.
Oui, le château, c'est celui-là. Il est plus aux normes.
Il est plus aux normes. C'est pour ça que je l'avais retiré.
Oui, le grand, oui.
Pourtant, il était aux normes, celui-là. Non, le grand, il n'y était plus, là, avec toutes les dégradations qu'il avait subies.
Ah, avec les dégradations.
Oui,
oui. Justement, on l'avait changé parce que celui d'avant, il n'était pas aux normes.
Ceci dit, on est toujours aux normes à un moment donné, on ne l'est plus après. Mais là, c'était surtout la dégradation de l'état du jeu.
Il était dangereux.
L'ancien, il n'était pas aux normes, on n'avait jamais eu d'accident. Et 15 jours après, oui, celui qui était aux normes, et une jambe cassée sur le nouveau. Il était aux normes.
Voilà. Donc voilà l'explication. Et on regarde au remplacement de ce jeu-là. Hein, on ne va pas laisser la cour comme ça. On regarde. Ceci dit, on ne va sans doute pas le remettre avant que justement les travaux soient faits à l'été. Hein.
Oui, justement, ça faisait partie de...
Oui, il y aura un ensemble plus important que ce que le petit train.
Ce sera... Pour l'instant, on est parti, puisque la directrice a envoyé un souhait, en fait, de jeu qui ressemble quasiment à celui qu'il y avait, parce que ça convenait bien à l'école... Moi, je voulais juste revenir sur le détail. En fait, là, quand on dit la réfection de la cour, là, par rapport au montant, c'est pas toute la cour. Qu'est-ce qui a été chiffré alors ? C'est juste.
On a rechiffré toute la cour.
D'accord. Parce que ça me paraît pas cher par rapport au montant des fenêtres. Enfin, c'est toujours trop cher, mais par rapport au montant entre les portes et fenêtres, c'est pour ça que j'étais étonné.
Non, là, c'est toute la cour et il y a une remise à niveau au niveau des portes, là, les seuils, etc.
C'est ça pour
correspondre. Une marche et pour se mettre en adaptabilité au PMR, on doit supprimer ces marches.
Et le chemin goudronné en face de l'entrée.
Il est prévu dedans aussi. Qui est à l'extérieur donc de l'école. Hein. Bon, je ne l'ai pas mentionné là, mais il est prévu dedans. Je vous propose de revenir à l'objet précis de la discussion. J'ajouterai que, puisqu'on parle des DETR et des fonds, du fonds de soutien à l'investissement local, rien ne traîne. On a consommé tout ce qu'on avait. Hein. Tous les dossiers sur lesquels on avait déposé de la DETR, le FSIL, tout ça a été consommé. Donc c'est une démonstration de sérieux, quelque part, vis-à-vis de ceux qui nous accordent des subventions. Voilà, donc maintenant, je vous propose de passer au vote. Donc je répète, je vous propose d'approuver le projet de travaux, donc les trois, de solliciter les subventions de l'État, de financer le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit aux articles 2313 du budget de l'exercice 2017, et de s'engager à s'inscrire chaque année au budget les sommes nécessaires à l'entretien de cet investissement afin d'en assurer la pérennité. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Point suivant. Donc le point suivant concerne le contrat enfance-jeunesse que nous avons avec la CAF et qui nous permet notamment de toucher des aides de la CAF concernant la LSH, donc ce qui est loisirs organisé par la MJC d'ailleurs, et la crèche. Hein, c'est aussi, ça en fait partie. Donc ce contrat, comme il est marqué dans la note que vous avez tous lue, ce contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2015. Mais ceci dit, il ne faut pas vous étonner, avec la CAF ça marche comme ça, on signe le contrat à partir du 1er janvier 2016, maintenant en janvier 2017. Bon, voilà, ça marche comme ça. D'un autre côté, ce qu'on peut dire de ce contrat, c'est qu'il a été établi sur les bases de la communauté de communes de la Basse-Autonne. Donc aujourd'hui, on pourrait se poser la question de ce qui va se passer. En fait, déjà, comme je vous l'ai dit, ce contrat prend effet au 1er janvier 2016. Il va d'ailleurs jusqu'au 31 décembre 2019. Et donc, dans la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, eh bien, il s'agissait bien de la communauté de communes de la Basse-Autonne. D'accord ? Ultérieurement, dans un an, peut-être, il y aura un avenant qui sera fait pour régulariser tout ça. Alors, ce contrat enfance-jeunesse, en fait, c'est ni plus ni moins que la reconduction de l'ancien. Il n'y a pas eu d'action nouvelle de mise. On continue avec les mêmes actions. Voilà. Donc, en gros, c'est le même contrat. Simplement, on le renouvelle et on le prolonge jusqu'au 31 décembre 2019.
Ce sont les mêmes pourcentages d'aide.
Je crois que ça reste les mêmes pourcentages d'aide, effectivement. Enfin, vous savez que dans ce domaine-là, on n'a pas trop le choix. De toute façon, on signe ce qu'on veut bien nous donner. Mais ce sont les mêmes pourcentages, madame Jalot ? Oui, oui, ce sont les mêmes pourcentages. Il semblait bien que c'était à l'identique, hein, en fait.
Parce que ça avait baissé, au fur et à mesure du temps.
Ouais. Bah, je pense que c'est pas fini.
C'est arrivé en bas.
Ça, ça j'en jurerai pas.
Bientôt, c'est nous.
Question sur cet aspect-là. Donc, il s'agit de m'autoriser à signer ce contrat. Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Donc, point suivant. Vente biens immobiliers, 26 rue de la République. Alors, on a déjà un bien qui est en vente au 26 rue de la République, puisqu'il s'agit de la petite maison qui se trouve, lorsqu'on rentre à la place du marché, sur la droite. Cette fois-ci, on parle bâtiment qui est sur la gauche, après chez Borges. Alors, qu'est-ce qui nous a incité à aller dans ce sens-là ? On a eu une discussion, d'ailleurs, lors du dernier conseil municipal, concernant la démographie médicale, je le rappelle, là-dedans, on n'a évidemment pas tous les leviers en main, loin de là. Hein, il y a des décisions qui nous échappent largement, des décisions qui doivent être prises au niveau national. Comme information, ce que je peux vous donner, c'est que le département s'en préoccupe également, puisque le département est en train de rédiger exactement le détail des mesures, mais il va accorder des bourses aux étudiants en médecine qui s'engageraient à rester dans l'Oise. Alors les modalités exactes, on ne les a pas encore, ils y travaillent, à partir de quelle année interviennent ces bourses, combien de temps ils devront rester, comment seront fixées, tout ça c'est en gestation et ce n'est pas aujourd'hui connu. Bon, à notre niveau, ce qu'on avait dit, c'est qu'on travaillait sur cette affaire-là, sachant que le cabinet qui se trouve rue de la Pêcherie va fermer. Et aujourd'hui, il y a un investisseur privé, qui s'est manifesté en disant que lui, il désirait construire ou gérer une maison médicale et paramédicale. C'est une... voilà, sur cette affaire-là, le docteur Lejeune, au moins, est intéressé. Il y a même... il regarde d'autres personnes aujourd'hui. Il y aurait également des infirmières. Il y aurait également un ostéopathe. Il y aurait également d'autres professions de santé. Enfin, il a déjà regardé un petit peu autour les gens qui pourraient être intéressés. En termes de situation, l'immeuble est en centre-ville, il est place du marché, il offre donc des possibilités de stationnement qui sont intéressantes. Sur un autre plan, donc il est facile d'accès, et sur un autre plan, il se situe aussi à en gros 75 mètres de la pharmacie, ce qui est aussi un élément de vitalisation quelque part de notre centre-ville. Donc ça semblait un projet intéressant. Ce bâtiment fait en surface intérieure 94 mètres carrés. Donc il y aurait un niveau de rez-de-chaussée, un niveau de premier étage, et en gros la possibilité de faire 8 box.
Oui, ça fait
beaucoup. Voilà, alors ce sera peut-être 7 au final. Et puis certains ont dit que...
Attendez.
Certains ont déjà dit qu'ils en voulaient 2. Alors, bon, tout ça va bouger.
Tu vois qu'un cabinet médical, il fait 20 mètres carrés.
Ça fait
200 mètres carrés.
Ça fait 200 mètres carrés.
C'est l'extérieur.
Mais il a dit qu'il y avait un étage, Michel.
C'est la surface au sol.
Surface au sol.
Il y a la cave.
Il y a deuxième sous-sol.
C'est les catacombes.
Enfin, ça c'était pour vous dire que le porteur de projet a déjà commencé à travailler sur l'affaire, très sérieusement.
Alors il y a une question que je me pose, pourquoi nous la mairie, on ne s'est pas lancé dans cette aventure-là ? Au lieu de mettre ça dans les mains d'un promoteur.
Attends, t'as un promoteur privé qui peut faire cette opération-là. Pourquoi des fonds publics peuvent aller dans une opération alors que quelqu'un de privé peut le faire ? Où en vois-tu l'avantage ?
Je sais pas, ça serait quand même quelque chose, un plus pour la commune.
Un plus, quel est le plus ?
Je sais pas, tu prends beaucoup de communes, que ça soit Marnique...
Quel plus par rapport à un privé ?
Je sais pas, t'as déjà une rentrée d'argent à la commune, que lui, c'est lui qui va là-bas, la rentrée d'argent.
Moi, je préfère aller investir dans la réfection d'une rue... Dans la réflexion d'une école plutôt que dans la mise en place d'une maison médicale, alors qu'on a le moyen de le faire financer par quelqu'un d'autre. Enfin, voilà.
Puis c'est pas la vocation d'une commune de faire de la location dans le médical.
La vocation d'une commune, c'est quoi ?
Ben là, justement, c'est de mettre à disposition un local communal en ruine qui va permettre d'embellir le centre-ville.
Marnier-les-Compiègne vient d'ouvrir sa
cabinet
médical avec à peu près 7 ou 8 médecins
qui sont. Et combien ça a coûté à Marnier-les-Compiègne ?
Je ne sais pas.
Ah ben voilà, il faut venir avec des éléments avant de... Marnier des Compiègne n'est pas Verberie, Michel. Hein. Pas le même budget.
Un chevrier est en train d'en faire un.
Ouais, mais là, on a la possibilité d'y mettre un investisseur privé, donc autant en profiter.
Dans quel budget
là-bas,
dans l'espace.
Ah,
bah,
les budgets
ont. Faut trouver un million. Je ne suis pas certain que c'est la commune qui gère. Elle a tenu un carré, c'est tout.
Je sais pas. Mais oui, mais peut-être. Non,
je n'ai pas tout énuméré. J'ai énuméré quelques points.
Ils sont donné le terrain, mais ce n'est pas eux qui payent le truc.
Les locaux
ne
sont pas le même prix pour un privé que si c'était la commune qui le faisait. Alors, est-ce que le prix qui sera loué aux médecins. Par un privé conviendra, je ne sais pas. Moi, n'ayant aucun élément financier sur ce sujet.
Alors, il fait une étude de marché.
Une étude de marché.
Le droit des aides, qu'on soit sinistre au point que le conseil départemental nous alloue une subvention pour faire une liaison médicale. On n'est pas encore à ce stade-là.
Oui, mais là, tout est
en train de
changer. Là,
parce que, ah oui, c'est en général, le conseil régional général, je vais faire ramener les médecins les conserver, il va participer sur moi
bon.
Pour donner les subventions.
On a énormément de choses à faire sur la commune. On a, dans le domaine du patrimoine, on a encore bien d'autres choses, dans les rues, dans les... dans la voirie, hein, on a la rue de la Cendrière, on a d'autres...
Vous pensez que c'était une chose prioritaire pour une commune d'avoir...
Bah, tu veux l'avoir.
Mais ça, oui, ça.
Mais je vois pas l'intérêt.
Je vois pas le plus, moi, Michel. Non, tu nous donnes pas d'arguments. Non, je sais pas si tu disais des vrais arguments concrets en béton.
Si un porteur privé veut y aller, et on va prendre un certain nombre de garanties, effectivement, dans au moment de la vente, eh bien, il y va.
Et puis, il faut savoir que légalement, une collectivité ne peut pas promettre une entrave. À l'initiative privée. Oui. À partir du moment où il y a une initiative privée qui existe, elle est prioritaire sur nous. On n'a pas le droit d'empêcher un privé d'acheter un bâtiment et d'en faire ce qu'il veut.
Non, mais on n'est pas obligé de vivre non plus.
Ah oui,
c'est autre chose. C'est autre chose.
Non.
Mais si.
Oui.
Si on peut lier les deux, c'est pas plus mal. Hein. D'autant plus que ça permet aussi, en termes de calendrier, d'être beaucoup plus réactif. Bah, c'est-à-dire que les fonds vont arriver ailleurs.
Ça dépend du promoteur.
Alors là, on est sur quelque chose qui devrait être réactif, oui.
Ah, il y a une question que je me pose. Bon, peut-être que, par exemple, ce promoteur fait un cabinet médical. C'est les médecins qui amènent leur matériel dedans c'est,
ah bah oui.
C'est, je ne sais pas.
Oui.
Oui. La question, c'est ça.
Oui.
Il loue les murs. Hein.
Lui, il loue les murs et puis c'est le...
Il loue les murs, oui. Mais enfin, un cabinet médical d'un médecin généraliste, en termes de matériel, c'est pas énorme. Alors, un autre cabinet, ça peut être plus technique et plus et demander plus de matériel.
Nous, il nous faut 300 mètres carrés et on n'a pas assez de place.
Ouais. Là, c'est...
Ah, mais... Studio
médiatique. Mais déjà, les fauteuils et tout ça, c'est...
Il y a un personnage du rail, en
avant. Moi, je trouve que c'est bon.
Mais moi, je pense que c'est un... Enfin, là, la personne qui s'y met, elle va le gérer elle-même. Bon, elle rentre dans un cadre immobilier. Elle va sans doute réussir à en faire du bénéfice, et je le souhaite pour elle. Parce que pour que les affaires fonctionnent, il faut que les gens puissent faire du bénéfice. Mais derrière ça, si c'était nous qui le gérions, en termes de revenus et de bénéfices, je suis extrêmement sceptique.
Et puis il faut que quelqu'un s'en occupe, c'est pas tout.
Ils ne sont pas lancés, les cabinets médicaux, aujourd'hui.
Pas mal dans la région, hein.
Les syndics existent déjà.
Ah oui, oui. Le quand on voit le nombre de personnes...
Oui.
Non.
Le meuf, ça se vide.
Oui. Trépied-en-Valois, il y a des soucis.
Trépied-en-Valois, il s'est vidé.
Le meuf, il est en train de se vider. Hein. Il y a je ne sais pas combien qu'ils sont partis.
Et les travaux ont été faits. Et ça appartient à la commune maintenant. Depuis.
Mon ophtalmo,
il
est
fou. Parce qu'il n'y avait plus personne dedans. Quoi. Ils étaient tous partis.
Voilà. Le principe de la maison médicale.
Alors aujourd'hui, Bétizy se retrouve avec un cabinet médical, mais il y a qui dedans?
Ah, ben il y a des médecins.
Il y en a combien? Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 4.
Ah oui, il y en a qui sont...
Si un porteur de projet privé,
oui, oui.
Laissons le porteur de projet privé le faire. Nous, investissons-nous sur notre partie de l'espace public. Hein.
Alors, on a... Alors,
là, il faut trouver le local, et puis il faut trouver les fonds pour faire les travaux, et puis...
C'est l'objectif.
Donc... Alors justement, en complément de tout ça, on a quand même interrogé Maître Lefranc, enfin le notaire, pour savoir quelles garanties on pouvait y mettre. Typiquement, trouver la feuille. Voilà. Alors il y a plusieurs types de garanties. Il y a d'abord une clause dans la promesse de vente. Il sera stipulé une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ou déclaration des travaux et une date avant laquelle l'acquéreur s'engagera à déposer sa demande, ce qui est là pour démontrer la bonne foi de l'acquéreur. Et ensuite, deux clauses dans l'acte de vente. Une clause pénale prévoyant le versement d'une somme forfaitaire et irréductible du montant de la vente en cas de non-respect de l'obligation d'utilisation du bien à usage de maison médicale et paramédicale. Et une clause résolutoire en cas de non-respect de cette obligation pendant 5 ans. Cela signifie que la vente pourrait être annulée. Voilà, typiquement, aujourd'hui, après consultation du notaire, ce qu'il nous propose comme clause pour nous protéger. Clause tenable sur le plan juridique. On peut toujours après imaginer qu'on dise pendant 100 ans, etc. Mais ça, sur le plan juridique, évidemment, ce n'est pas tenable. Alors, évidemment, ce bien... On l'a fait évaluer par les domaines. Ce bien, je le rappelle, il est constitué de 4 murs, hein, de quelques portes, fenêtres, mais de 4 murs, hein, point final, et d'un toit. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc il a été évalué à 65 000 euros. Et nous, on propose tout simplement de le vendre à ce prix-là. 65 000 euros. À l'intéressé ou à une SCI qui portera le projet qu'il constituera ou qu'il a déjà constitué.
Et vous ne vendez que le bâtiment ?
Que le bâtiment.
Ça pose problème. Ça pose problème au niveau du permis de construire, puisque vous avez obligation de place de parking avec le bâtiment, puisque ce bâtiment n'était pas un logement et ça n'était pas non plus un commerce. Donc, il va falloir vendre du terrain avec pour pouvoir y faire les parkings. Sinon, au niveau du plan local d'urbanisme, votre permis de construire, il ne pourra pas tenir.
Bon, on va regarder cet aspect-là. Mais là, je pense qu'on peut tout à fait trouver. Il y a des clauses dans le permis, dans le plan local d'urbanisme qui permettent d'exempter de cette affaire-là.
Si on n'est pas des parkings,
à condition que lui ait, alors la condition c'est simple, il faut que le gestionnaire ait dans les 500 mètres autour les parkings ou les garages. C'est ça, c'est les 500 mètres,
ça
c'est
devra,
exactement,
là,
c'est le plus.
Là, oui.
Oui, non, mais les parkings, lui appartenant.
Lui appartenant.
Lui appartenant. Et lorsque vous déposez le permis de construire, vous avez obligation de des places de parking.
Ou alors on nous fait payer les places de parking.
Vous n'avez pas le droit, ça n'est pas dans le plan local d'urbanisme et ça n'est pas autorisé. Ça n'est pas autorisé. Mais il faut. Ça c'est.
On va voir.
Je vais faire des places de parking. Au niveau des cabinets médicaux, vous êtes obligé de faire des places de parking.
Ils sont lesquels ?
Mais ils sont derrière, moi j'en ai deux.
Dans la maison ?
Dans la maison,
il faut payer
la parole.
Ah oui, j'avais obligation de faire des places de
parking. Alors les places de parking pour les logements et pour les surfaces commerciales, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une différence entre les deux dans le PLU.
Oui, mais c'est encore plus important. Mais là, c'est pas une surface commerciale, là. Vous ne pouvez pas rentrer les cabinets médicaux dans les surfaces commerciales.
Et ce n'est pas non plus de l'habitat.
Oui, mais vous avez obligation de les faire.
Bon.
On y regardera.
On y regardera, mais...
Je suis dans un centre de soins, et on a déménagé, mais le précédent local qu'on avait, avec le médecin, le psychologue, on louait à l'OPAC, et c'était un bail commercial. Donc c'était, avant qu'on y soit, c'était un local commercial. Donc a priori,
il peut y avoir des montages financiers, mais même à travers de SCI, etc., qui permettent.
Ah, mais vous pouvez avoir tous les montages que vous voulez. Vous avez
bien le respecter, mais on peut regarder ça. Ouais.
Moi, c'est pas ce que je vous dis, c'est une obligation. Parce qu'autrement, il n'obtiendra pas son permis de construire. Il aura un permis de construire refusé, puisqu'il n'y aura pas de parking. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudra vendre une partie de terrain pour pouvoir faire les places de parking maintenant au bâtiment.
On vendra cette qualité
qu'on se connaît. Je ne pense pas que ce ne soit pas perdre de temps, parce qu'une instruction, c'est 3 mois, il va revenir refusé, et puis.
On va de toute façon. On va de toute façon regarder cette question-là, mais ça remet pas en cause le projet.
Non, pas du tout.
Je pense que. Bien. Mais ça, après, c'est le porteur de projet qui va.
Si par exemple, l'important, c'est de récupérer des médecins. Ouais, bon, bah, c'est pas compliqué, c'est en Italie, hein, ils en sont débordés.
Bah oui.
Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Puis à Tourotte, le maire s'est pas embêté, il a été en Italie, il en a ramené 10. Et puis voilà, il y a 10 médecins à Tourotte. Parce qu'en Italie, il y a trop de médecins et ils n'ont pas de boulot.
Bon, donc ils vont arriver en France.
Hein
bon. En tout.
Mais ils veulent pas venir à la campagne.
En tout état. Bon, ici, on n'est pas vraiment à la campagne. On est en milieu périurbain. En tout état de cause. En tout état de cause, avoir une telle maison médicale à cet emplacement pour l'urbanisme, voilà, c'est de toute façon une bonne chose. Donc moi, je vous propose, je renouvelle et on regardera cette affaire de parking, mais je vous propose effectivement que vous m'autorisiez, compte tenu des garanties que j'ai évoquées tout à l'heure, à vendre cet appartement 26 rue de la République, bâtiment. Mais c'est l'immeuble en termes mobilier, c'est le terme. Parcelle cadastrée H29 pour partie au prix de 65 000 euros pour l'installation d'une maison médicale et paramédicale à M. Cédric Lefranc ou à une SCI dont il serait le gérant.
Le France, c'est la famille avec le notaire,
non ? Non, ça n'a rien à voir.
C'est un homonyme.
Je vous propose de. Je vous propose de passer au vote. Bah, il en faut. Il en faut. Bien, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Hein ? Donc, pour 17 plus le nombre 18, pardon, puisque Edwige nous a rejoint, plus le nombre de pouvoirs 1, 2, 3. Donc 18-21 pour.
Et en fait, qu'est-ce qu'il en est de la maison en face à la...
Elle est toujours en vente.
Parce que c'est plus la mairie qui l'avait en vente, c'est Pilleux.
Oui, on l'a donné effectivement à quelqu'un pour la mettre en vente.
Donc le prix a changé.
Non.
Le prix est 111 000 euros.
Pourquoi le prix a changé ? Non, il ne change pas le prix de vente pour lui.
Il est toujours par rapport à la délibération qui a été prise, il est.
Ça reste le même prix.
Je ne sais pas, elle était à combien la mairie l'avait mise à combien pas par jour.
105 ou
105.
Et puis là, elle a 120 000.
Bah oui. Ouais. Bah, c'est normal. Hein. Un agent, il ne va pas le faire gratuitement. Hein.
Si après, il y a les frais de notaire.
Ah bah oui, c'est sûr.
Est-ce que tu ne passes comme film à
des amis? C'est à toi.
Ils ont arrêté.
Si, c'est arrêté.
Ah oui, c'est vrai.
Une abstention. Il se coupe une lumière.
Pas toutes, hein.
Une seule.
Voilà. Je n'ai pas prévu.
Bien, je vous propose de passer à l'ordre au point suivant de l'ordre du jour. Pour le RPQS 2015, et je vais donc donner la parole à Ferroudja Raoui.
Ça y est, au boulot.
Moi j'ai vu que l'eau était chère.
Oui, je voyais que mes chaises ne se dépassaient pas, je me suis dit ça va être pour moi.
Très cher.
Voilà. Mais on entend
très cher.
Depuis longtemps.
C'est pas l'eau qui est chère, c'est le traitement de l'eau.
Mais depuis longtemps. Ouais. Pas cher depuis 2014.
Pas cher l'eau.
À la base.
C'est ce qu'on en fait qui est cher.
Le traitement est cher. Le traitement est cher, pas l'eau.
Ouais, c'est ça. Je mets même dans les factures.
Je paye 700 euros par semestre.
700 euros,
650
euros.
Patrick, tu te laves trop.
Il
faut arrêter les douches.
Si, je paye ça.
Je paye 300 euros.
Par an ?
Non, 50 euros par mois. Quoi.
Ah non, je paye plus que ça.
Moi je paye pas ça.
Il y a des fuites chez toi,
quoi. Je paye 150 euros par semestre, des choses comme ça.
Ah bon ?
Ah oui.
T'as ton voisin qui est mon
rocher. 60 mètres cubes. 60 mètres cubes, j'utilise.
Double de moi. Moi, j'en fais 30.
120 mètres cubes à l'année. Ah ouais, comme moi.
Il faut
lire,
parce que je n'ai pas
compris
que
je suis.
Ah ben non,
voilà, on
ne
voit rien.
600 euros à l'année.
Voilà.
Il paye 600 euros par semestre.
Bah, c'est à peu près ça. C'est par an, alors peut-être.
C'est un gros par mois.
120 mètres cubes.
Ouais,
alors, ça, c'est dans le rapport de l'exercice 2015.
Merci, Ferrou.
C'est intéressant.
Le nombre d'abonnés, les habitants du service, le volume vendu en 2015. Donc le rendement, il y a 83. Le rendement, c'est évidemment le rapport entre l'eau qui est produite. Et l'eau qui arrive à destination.
Il y a 17% de l'eau qui part dans la nature.
Oui, donc il y a 17% de l'eau qui part dans la nature, mais notamment en partie, enfin, qui est partie de ça, c'est ça.
Les fuites,
ça va, c'est parce qu'on a des réseaux vieillissants, donc il y a des fuites à vos compteurs. Et donc, c'est un...
17% sans 100 et 188.
Non, ça c'est... Oui, c'est 17%... C'est 180 ce qui arrive chez le consommateur, entre ce qui est produit
et vendu.
Et ils sont crevés comme ça.
103 000 produits pour
s'en travailler. Ah non, ça va pas.
Il y a un problème là.
Parce qu'on en vend plus parce qu'on achète à longueur pour diluer le trop.
Ah oui.
On ne nous dit pas tout. Ah oui. Ah bah ça, effectivement, ça fait le rapport santé de cette façon. Et que, effectivement, si vous ne saviez pas, il faut savoir que nous achetons à peu près 100 mm cubes, c'est à peu près 100 mm maintenant, au ciel de Longueuil pour diluer l'eau de Verdurie qui comporte trop de fluor.
Ah bon?
Oui. Donc c'est fluor.
C'est pas toujours.
Bon,
c'est-à-dire que le mélange avant était à 20% et maintenant il est à 50%. Oui. Voilà, je n'ai jamais bien compris pourquoi.
Voilà, c'est vrai que c'est à peu près 50% de diluer.
Pourquoi ils ont augmenté autant?
Parce que pas certainement que peut-être que le fluor augmente aussi. Hein,
il a peut-être du buvet.
Pour qu'il soit si vous voulez, il boit beaucoup de fluor qui atteint nos cerveaux.
C'est ça que j'ai vu certaines personnes qui
disaient. En tout état de cause, ce passage de 20 à 50%, il n'est pas récent. Hein. C'est pas ces dernières années que ça a eu lieu. Je ne connais pas la raison.
La convention, c'est pas une convention qui a été signée du temps de ces 20 jours. Et d'ailleurs, la grande fin maintenant, et je vois la retour prochainement, c'est le donc, du coup, est-ce que par rapport à cette synthèse, vous avez des éléments de compréhension? Est-ce que vous voulez que vous donniez quelques précisions? Peut-être avancer un petit peu. Donc, les actions à mener pour la ressource, c'est effectivement remettre en route l'interconnexion. Notamment, nous avons commencé à étudier en 2016 avec la Lyonnaise, remettre en route l'interconnexion qu'il y avait avec la commune de Néry, une interconnexion qui a été faite depuis très très longtemps, qui n'a pratiquement jamais fonctionné, ce qui fait que la Lyonnaise a passé des
années. Si, elle a fonctionné pendant très longtemps, cette
interconnexion. Il y a très longtemps, enfin, c'est quand même du mal à la trouver.
Oui, parce que c'est moi qui l'ai dit.
Oui.
Mais cette convention. Ça s'est arrêté il y a 30 ans, mais ça a duré au moins pendant 20 ou 30 ans, l'achat de l'eau à Néry.
C'est une durée de 30 ans. Ça fait 30 ans que cette canalisation a été utilisée pour le transport de l'eau vers le château de Saint-Bas. Donc la Lyonnaise a fait un curage de la canalisation avec Veolia qui gère pour Néry. Il a été constaté donc, des coupures dans la canalisation à certains endroits. Peut-être était-ce des accidents, je ne sais pas. Toujours est-il, comme ça fait 30 ans qu'elle ne servait pas, du coup, elle a été dérivée sur Saint-Yves qui s'en sert comme canalisation pour purger leur château d'eau. Donc maintenant, on est en train d'étudier.
Au départ, ça venait dans la côte.
Donc là, on étudie la possibilité, coût financièrement, ça sera pour nous. De voir quand même coûterait la remise en état de cette canalisation, parce qu'évidemment Néry est en capacité de produire une eau de qualité et en quantité, ce qui nous permettrait de nous libérer du SIAP. Ou alors, si vraiment les travaux s'avéraient trop importants, la Lyonnaise ferait pour nous un forage d'essai sur les trois forages qui ont été prévus par cadre des études du SMBAC. Il y aurait donc deux possibilités au bord de l'Oise. Et une possibilité sur Saint-Bas. Donc ça, c'est le challenge pour d'ici jusqu'à la fin de 2018, date à laquelle on ne transférera la compétence à l'ARC. Mais bon, voilà, pour l'instant, on se sert toujours à Longueuil et on travaille donc à cette interconnexion. Et les autres actions, c'est ce qu'on a commencé déjà depuis cette année, c'est le renouvellement des vieilles canalisations. Par la Lyonnaise dans le cadre de son contrat. Donc on a renouvelé la rue de la République cette année. On a refait une partie de la rue de Paris et la rue Juliette Adam, notamment rue Juliette Adam qui sera du renforcement de réseau. La canalisation était trop petite pour la défense incendie. Donc voilà, l'objectif c'est de.
Et on a refait la rue Gustave Bouffé.
Et la rue, on a fait la rue Gustave Bouffé, mais en partie. Voilà donc ce que je peux vous dire sur ce qu'on va avancer. Merci. Donc pour le prix de l'eau, justement, il est là.
Il est
descendu. Non, ça c'est l'eau, c'est que l'eau potable. Alors l'eau potable est à 2,90 dans l'eau potable chez nous. Et la moyenne de l'eau est à 2,60. Vous comprendrez bien que nous, on a vraiment envie d'acheter de l'eau ailleurs. Pour des villes énormes, ça nous coûte forcément plus cher. Donc, le prix du mètre cube, le cercle nous vend 1,03€ le mètre cube à partir de cette année, puisqu'il a réduit ses indices à la hausse.
Exact, ça coûterait cher de refaire un puits, faire un forage.
Vous savez, quand la Lyonnaise nous fait un forage gratuit, après il y a trois possibilités. Si on a la chance d'avoir le forage d'essai, qu'on a de la bonne eau, qui serait de meilleure qualité que celle qu'on a actuellement, ça nous coûterait moins cher, on aura un traitement en moins. Maintenant, on n'est pas assuré. Trouver ce qu'elle est à Saint-Va, la bonne eau, parce qu'elle est toujours en bord de l'Oise, un peu plus haut que la station actuelle.
De reprendre un peu plus profondément celui de l'Oise. Parce que là, on a une tueur, mais ça ne veut pas dire que 30 mètres plus bas, dans la nappe suivante, puisque ce n'est pas une nappe phréatique, mais différentes nappes phréatiques. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura peut-être plus dehors dans la nappe suivante.
Plus ou moins.
Ça, c'est une forêt pour le savoir. Et ce serait le plus simple parce qu'il y a déjà toutes les installations.
Ce qui reviendrait le moins cher.
Il faudra calculer après des kilomètres pour ramener l'eau, pour rendre ça va.
Parce qu'il faudra quand même du chlore,
il faudra quand même. Il avait été prévu plusieurs ouvrages, mais le gros problème de cette affaire, c'est la carrière de Néry, cette fameuse carrière qui est un des trois sites de l'Huile de France.
Bien sûr.
Et qui part dans le fond de. L'automne, qui pourrait polluer la nappe phréatique proche. Et comme plus on irait pomper vers l'automne, plus on pourrait avoir de risques s'il y avait un problème avec cette pollution dont on ne connaît pas la teneur, en plus.
Le niveau de Saint-Pil est déjà donné de mauvaise qualité. J'ai lu sur un carte de l'eau potable.
Mais l'eau de Saint-Yne, ça vient de Néry. Hein.
Non, l'eau de Saint-Yne, elle vient de Néry, elle ne vient pas de Saint-Yne. Hein.
C'est pas, Verberie est à 100%.
Non, ouais, mais c'est pas. Le traitement n'est pas le même, peut-être.
Aujourd'hui, sur la décharge de Néry-Saint-Yne, on nous dit. Alors, il y a des équipements en place. Hein, on nous dit qu'il n'y a pour l'instant pas de fuite, de pollution, etc., vers les nappes phréatiques. Mais, voilà.
Oui, mais
enfin,
il y a pas eu de réunion
depuis
deux ans.
Si, il y en a une il y a 3-4 mois. Mais on ne peut pas dire qu'elle soit très productive, ces réunions, très honnêtement.
Mais bon, l'État dort sur cette affaire depuis bientôt 40 ans.
Ouais, à l'aise.
Les bidons, ils ont le temps de s'écouler.
Donc là, dans cette présentation, vous détaillez un peu la caractéristique du service. C'est le patrimoine en fait, qui constitue notre production d'eau. Il y a une des productions donc, au bord de l'Oise. Il y a un peu de stockage pour, en cas de difficulté. Le linéaire du réseau fait environ 30 km. Et vous avez une lampe de branchement, qui est le branchement en fait, qui était en 2015.
OK.
Donc voilà, sachant notre traitement, notre partie. Oui, le traitement, c'est le délégataire qui assure le traitement. La compétence de traitement, c'est pas très important. Donc c'est géré par la Lyonnaise des eaux depuis une convention de 2007 qui va prendre fin donc, en mai 2022. Bon, à cette date-là, notre service sera transféré à l'ARC. Donc l'ARC qui renouvellera le contrat de la Mandue. Il y a eu un avenant au contrat, mais c'était l'avenant qui est passé, ça c'était un peu. C'est pas précisé, on a fait un avenant l'année dernière pour régler les questions financières, puisqu'il y avait un circuit financier très compliqué pour le paiement de l'eau achetée au siècle. Il y avait un circuit totalement flou, ce qui fait que pendant plusieurs années, il y a eu des interruptions de paiement et il y avait 200 000 euros qui étaient en stand-by à la Lyonnaise. Donc c'est la raison pour laquelle on a refait une convention pour bien préciser le circuit financier. Non, ça a été fait en 2014. C'est une des premières tâches que j'ai
faites. Mais 200 000 euros, ça date de quand ?
Ça datait de plusieurs années. C'est-à-dire que normalement, c'est le délégataire qui paye l'eau qui est achetée. Et là, le CIVOL, enfin le CIEP, facturait au CIVOL l'eau Donc, Sylvain m'avait payé, et par contre, la Lyonnaise ne payait pas. Donc, du coup, on a remis les choses dans l'ordre, et on a récupéré de près de la Lyonnaise 200 000 euros. Et maintenant, on a mis le circuit, comme ça, la manufacture, sans envoyer directement la Lyonnaise.
Mais c'était quand, ces 200 000 euros?
Ça rentre sur quelques exercices, honnêtement, j'ai plus ça en tête, monsieur.
Ah, oui,
j'ai découvert ça quand je suis allée voir monsieur Doublé, quand j'ai ma prise de poste, et on a passé pratiquement l'année 2014.
Donc ça, c'est
remettre à pied, tout ça, c'est rentré, ça nous a fait 200 000 euros de budget. Et on ne sort plus d'argent, c'est payé directement par la Lyonnaise. Voilà.
Donc le problème a été réglé.
Il a réglé définitivement. Voilà.
2014.
Donc là, les chiffres, si vous voyez par exemple, là vous avez constaté pour les abonnements, des baisses d'abonnements entre 2014 et 2015. En réalité, c'est parce qu'il y a de nouvelles normes pour le comptage du compteur. Avant, c'était quand il y avait un compteur principal, il y avait des sous-compteurs et ils étaient confrontés aux sous-compteurs. Mais maintenant, on considère comme client.
C'est une conséquence de la loi Hamon. Bon, voilà. Par exemple, au titre de la mairie, on avait je ne sais pas combien d'abonnements, de factures, et au titre de la loi Hamon, à peu de choses près, aujourd'hui, on compte pour un. Dans ce... Parce que quand on a vu ces chiffres-là, c'est pour ça que la dernière fois... Si, mais où sont partis les habitants?
D'ailleurs, on vous explique un peu plus bas, la forte baisse, donc on vous donne les explications. Après, donc on peut passer assez rapidement sur la répartition, parce qu'on est deux communes, hein, vous voyez, avec les chiffres qui vous ont présentés, les abonnements sur Bernoulli et sur Saint-Val-d'Aumont. L'évolution, vous avez donc la courbe qui explique un peu ce qu'on vient de dire.
Sauf qu'elle ne veut pas dire grand-chose au final.
Oui, voilà.
Bon, ben voilà.
C'est réparti.
Quand vous voyez ça brutalement, ça suscite quand même des interrogations.
Après, vous avez toutes les missions qui sont confiées à la Lyonnaise des eaux dans le cadre de la délégation, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est ce qui est à l'encontre du Sivonne. Donc la voirie qui est après réseau, l'ensemble des ouvrages, du captage, des clôtures, des équipements, donc tout ce qui est bâtiment. Et puis l'entretien des points de distribution dans les hydrants. Et ça, c'est particulier, c'est tout ce qui est devant l'incendie. Donc la ressource, bon ben voilà, ce forage de garderie, c'est du tanicien en termes de roche. La DUP, donc la déclaration d'utilité publique délivrée par le préfet, pour cette exploitation, date de 1985.
Bon, on voit qu'on est loin du débit d'autorisation. Donc,
voilà, donc on a encore de la marge. Hein, parce que, et là, on
peut à peu près. Pas sûr que ce soit pertinent.
On peut avancer. Alors, le réservoir, donc on n'a qu'un réservoir à Saint-Va, qui est de capacité de 500 mètres cubes. Et c'est d'où la nécessité, évidemment, surtout dans le cadre du PPRI, avec l'emplacement de la station, il faut qu'on envisage peut-être un autre emplacement pour, en cas de dénomination.
Mais dans la côte,
il est
à Saint-Va.
Cyclable.
Dans la cave.
À côté du camp.
Oui,
c'est ça, c'est rue de Loise.
La station de pompage, pas le réservoir.
Ah non, pardon, la station de pompage.
Il est dans la cave de Saint-Va.
Il est dans la cave de Saint-Va, il est en pleine forêt.
Ça y est, tu vas sur ton
mot, ça y est. Voilà,
c'est ce réservoir-là.
En 2007, la
Lyonnaise
a refait l'escalier d'accès.
Après, la rue de Saint-Va, et là, c'est la gauche.
Moi, je suis jamais allé par là.
Ah bon?
Oui, quand même, j'ai marché par là, ça fait moi, j'ai découvert le commerçant en 2014, quand j'ai été visité. Donc, il y avait des agrumes, il y avait des escaliers qui n'étaient pas.
Vous avez des mûriers autour, vous pouvez faire des murs.
Ah, on peut faire des murs.
Bon, on va peut-être avancer un peu.
On n'a pas avancé, excusez-moi. Je vais passer la parole.
Attends, j'ai 30 secondes.
Tout à l'heure.
Arnaud, allez à la page 49.
Alors, là, c'est le menu demandé aux abonnés. Mais il y a des demandes domestiques aussi. Hein, donc, il y a les abonnés et puis il y a les entreprises. Voilà.
Il vaut peut-être mieux voir la courbe.
Voilà. La valeur du graphique situé sert au calcul des indicateurs du présent rapport. Donc, ça, La consommation a été forte parce qu'on a eu un très bel été. Il a fait très chaud, donc les gens ont fait davantage.
Les eaux, maintenant.
Bon. Et puis, si, bien sûr. Donc, ça, c'est les moulins qu'on reprend. Quand vous avez une petite différence en avril 2014 et 2015, en réalité, c'est souvent ce qui sont les meilleures connaissances. Certains à mesure de l'exploitation, quand on a une connaissance plus précise avec des outils de planification aujourd'hui plus performants, évidemment, ce n'est pas des canaux, des tuyaux, des canalisations qui disparaissent en cours de route.
C'est plutôt embêtant.
Donc la tarification. Alors évidemment, il y a, vous connaissez, hein, les infrastructures d'eau, la part qui revient à la collectivité, c'est la surtaxe. Dans la rémunération des délégataires qui représente toutes ces confections du produit, donc sur la partie, c'est sur la consommation. Et du coup, on paye à l'agence de l'eau qui est reçu pour faire l'entrée derrière pour les travaux. Donc le prix de l'eau n'a pas augmenté depuis 2012, parce qu'à l'époque, le service était en déficit de 300 000 euros. Donc le SIGOM a été contraint d'augmenter le prix de l'eau. Maintenant, on est arrivé à l'équilibre au niveau de l'eau. Donc on augmente l'assainissement. On a augmenté en 2015 un petit peu l'assainissement pour nous procurer des ressources pour financer les travaux que nous faisons. Voilà, donc pour nous, après, grâce à des actualisations, ça n'a pas de d'intérêt. C'est une question d'actualisation pour le délégataire. Bon, là-dessus, c'est pas mal, je ne sais pas si c'est très important. Non. On a besoin de la facture pour la couper en gros. Je pense que vous avez peut-être. Si ça vous intéresse à titre personnel, comment vous définit. Donc, redevance pollution domestique, vous voyez, ça présente.
Non, des belles factures de lunettes,
voilà.
T'inquiète avec des
gars. Tu leur réponds que vous voyez en
voilà, on voit que l'exploitant prend 60%.
Voilà, oui.
La collectivité, 19%.
19%. Donc, bah, tu penses
On aurait dû investir là-dedans.
La première ligne, donc, elle est à 338 en 2014. En 2015, elle était 337, et puis avec l'augmentation au 1er janvier, elle est 347,83, ce qui fait 3,31% du prix qui a augmenté sans que le syndicat soit intervenu. Hein. On n'a pas augmenté l'eau, et c'est uniquement dû aux différentes taxes et donc à 3 points pour le mettre.
Oui, mais les taxes ont été augmentées.
Hein? Bien sûr, les taxes, en fait, pas la taxe syndicale, mais les taxes de l'agent de l'eau, la redevance pollution, et on va en avoir une autre parce qu'il y a une taxe aussi pour provisionner pour le renouvellement de ressources et la préservation de la ressource. Et Donc, ça aussi, l'agent de l'eau prévient pour assurer la ressource déjà et puis la compter pour l'avenir, pour financer donc ces nouvelles ressources.
C'est une taxe complémentaire qu'on va avoir.
Ah oui, oui, oui. Surtout que l'État, dans la mesure où l'État depuis 3 ans... écoutez, il faut dire les choses, hein, c'est pas vous direz sur votre facture, moi c'est pas un homicide. Hein. Ouais, c'est que l'État actuellement prélève prendre l'argent à l'agent de l'eau sur ses crédits. Et l'agence, c'est tout qu'elle redistribue, l'agence redistribue, qu'elle finance les réseaux glissants, pérennes et puis potables. Donc, vous voyez, quand on fait cette tablette qui est par là, alors nous, en termes de prix au mètre cube, on a 890 euros. Donc, on est, dans la moyenne, on a un peu au département.
Moyenne haute.
Sachant qu'au maximum d'envoi, c'est
4,5 euros.
Et que le mini, c'est 1,46 euros. Ça, c'est, je pense, c'est des gens qui n'achètent pas d'eau, qui ont une très bonne qualité, qui n'achètent pas. Et qui imaginent qu'on ne fait pas partie. Enfin, on n'attendait pas dans la touche, quoi. On voyait un peu les redevances, vous avez vu des taux de redevances, hein, Alors là, c'est des exploitations, ça je pense qu'on va trop s'attarder.
Non, c'est bien. Voilà.
C'est pour nous, on a 19%, donc sachant qu'il y a 60%. On a une eau de l'énergie et de le perchlorate, c'est vraiment très... c'est de temps en temps qu'on a une petite apparition, mais c'est ça, pour l'instant, c'est... Voilà, il n'y a pas de... L'ARS ne signale absolument aucun problème à l'apparition. Oui,
Alors,
après, on a des nouveaux tableaux qui ont été introduits dans l'arrêté de 2013. Il y a des tas de barèmes. En gros, pour le service de l'eau, l'agence répond, enfin, la bonne connaissance du patrimoine eau potable que l'agence de l'eau gère. On est à 92 points sur 120, donc on est plutôt dans l'hypothèse haute. Il y a une bonne connaissance du réseau. On répond à 92 points sur 120 à ces indicateurs-là. En gros, ça concerne une bonne connaissance, une bonne planification, des plans précis, une bonne connaissance de la composition, de la tête à laquelle les régions ont été mises en place, les matériaux utilisés, c'est tout ça qu'ils doivent être, la connaissance doit être de plus en plus affinée pour qu'on arrive à terme, quand on a 120 points, c'est qu'on connaît vraiment tout qui nous est. Alors en matière d'eau, on est en passant en 92, bon, encore du chemin ferme, on est bien. Oui, on est comme dans la moyenne haute, là, pour la moyenne haute.
Oui,
on est dans la moyenne. Voilà, est-ce qu'on descend. Alors, ça, c'est les volumes des services d'hydrogène, des avances, c'est les tensions de la lieu pour la production pour le service.
On a moins de pertes que l'an dernier. Enfin bon, quelques milliers de mètres cubes.
Voilà, les pertes sur le réseau, on est à 41 000 l'année dernière, on a 38 000 cette année. Et je pense que les choses vont forcément s'arranger. Avec les canalisations qu'on a changées cette année, il y a plus de tabou fermé dans la République. Et ce que nous allons changer cette année, dans la rue Juliette-Adam, et au moins dans la rue Juliette-Adam, et une partie de la rue. Donc, c'est bien que ça va s'améliorer. Voilà. Donc, ça, la consommation. Alors là, bon, ce qu'on fait, c'est que on est plutôt dans voilà, c'est une lumière de perte. On est plutôt entre nous, on est en zone milieu rural. Et là, je pense qu'on a 10, qui correspond acceptable pour un réseau de type semi-rural. Et évidemment, il doit être amélioré. Là, vous voyez, on est ici, on est bien comme complètement classé par rapport à. Ton moyen de renouvellement, donc vous voyez, ça c'est. Donc en 2014, vous avez renouvelé un pourcentage 1,64% du linéaire. En 2015, avec 0,29%. Et là, évidemment, ces indices-là vont s'améliorer avec ce qui a été renouvelé donc, cette année. Le rendement, donc ça c'est souvent la diminution des pertes. Le rendement est passé de 81,63 en 2014 à 83,50. Donc une amélioration de 2,14%. On continue. Bon, voilà, c'est le cours, ça n'a pas de. On est pareil, on est à peu près le nôtre quand même. Alors là, c'est peut-être pas envoyé les impayés sur facture. C'est la baisse, hein, par rapport à 2015. Il y a moins d'impayés qu'en 2014. Les interruptions de service, bon, en 2015, il n'y en a plus parce que la baisse est interdite.
C'est moins d'impayés.
Oui, donc il y a des interruptions de service. Et les taux de réclamation.
Ils se branchent chez les voisins, c'est pour ça.
C'est la réclamation des usagers. Voilà, c'est pareil, c'est la baisse aussi. Et le respect des délais d'ouverture du compteur, c'est respecté dans les délais, c'est à 100%. Les branchements en plomb, il n'en reste normalement plus. Normalement, ils ont tous été renouvelés. Voilà, c'est joli, c'est notre délai d'ouverture. Donc, est-ce qu'on est dans votre main? Des investissements. Alors ça, ça c'est les dépenses qui ont été faites par notre dette, la dette du Cibon. Vous voyez que dans l'eau, la dette à notre dette est en train de. Qu'elle faiblit, on arrive un petit peu en fin de cycle. Et donc ça c'est nos ressources. Donc ça c'est les. Donc, ce qui nous revient, ce qui revient au service de l'eau sur les redevances perçues. L'amortissement dans la dotation aux amortissements qu'on a inscrit tous les ans dans notre budget, justement en prévision du remplacement des réseaux. Donc on n'a pas versé de l'argent au FSL. Ça a toujours été comme ça. Mais je pense que c'était une décision sans doute du Cibom à une époque. Donc moi, je n'ai pas changé les choses. Le Cibom ne participe pas au fonds social du logement qui vient en aide aux personnes qui sont en difficulté. Bon, on atteint de 0 centime de donner à ce fonds. Donc les obligations, ça c'est. Voilà, peut-être que l'exploitant a des obligations, c'est de continuer à réduire les pertes sur réseau. Ils ont bien été atteints apparemment en 2014, mais encore un peu. Donc il n'y avait aucun renouvellement sur 2014. Si, par contre, la station de traitement, il y a une porte qui a été changée en 2016. Voilà. Alors, les perspectives, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc on a fait tout ce qui a été prévu, le code du terrain dans le public, ça c'est fait. Les escaliers donc, qui vont dans les réservoirs ont également été consolidés. Après, on a parlé des forages tout à l'heure en premier. Donc, vous avez là, c'est la liste. La gestion de cette présentation, que vous sortez, plus riche de cette présentation. On a plus de connaissances sur le monde de ressources.
Plus riche,
c'est
pas
plus. Bah, plus riche, bon, ben voilà, ça c'est une récapitulation, donc c'est juste un tableau que tout ce qu'on vient de voir.
On va s'arrêter là. Oui. Pourquoi tu n'as pas commencé dans ce tableau-là?
Ah oui.
Non,
c'est que je voulais juste vous donner une connaissance très exhaustive.
Moi, j'ai déjà lu.
Vous avez déjà lu? Ah,
ben,
vous allez me dire.
Non, mais on voulait t'écouter. On voit les paroles.
On dirait mieux pour l'assainissement. Allez, on arrête. On passe à l'assainissement.
J'y vais pour l'assainissement.
Oui, allez, je vais faire chef.
Vas-y Michel. Ouais.
On relaie, je vais être assez synthétique.
Voilà. j'ai bien compris.
Non, mais on sentait que tu étais fatigué.
Je ne suis pas belle.
Chacun selon sa culture.
Exactement.
Bien.
C'est très bien que plus on descend en dessous de la Loire et en dessous de la Méditerranée, plus on parle.
Donc sur la page de synthèse, bon, ce qui est intéressant, c'est ce qui a changé. En 2015, sur le réseau d'assainissement, il n'y a pas beaucoup de choses qui avaient changé par rapport à 2014. En fait, bon, là, le nombre d'abonnés, j'y reviens pas. On a exactement le même phénomène que sur l'eau avec l'application de la loi Hamon. Donc on peut baisser en bas de cette page-là. On a moins d'abonnés, mais en fait, on n'a pas moins de personnes. Donc c'est assez rassurant. Là, juste, si vous pouvez remonter juste un tout petit peu, on voit que, effectivement, on verra tout à l'heure, hein, alors on n'ira peut-être pas voir en détail. Notre indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux était amélioré. Il est très faible aujourd'hui.
Il est très faible.
Il était bon il y a un an ou un an et demi.
Oui.
Mais comme c'est le phénomène des normes, ils ont revu les points, etc.
Ah oui.
Aujourd'hui, on est passé de bon à très mauvais.
Ah oui.
Donc maintenant, on a tout un tas de travail à faire. En particulier, il faudrait qu'on connaisse toutes les dates de pause. Alors, on les a quelque part. Il faut fouiller dans les archives. Il faut tout relire. Il faut mettre ça dans les systèmes d'information géographique, la nature des cas d'analysation, etc. Et là, on va remonter en point en termes de gestion patrimoniale. Et quand on aura remonté, ils vont nous sortir autre chose.
Voilà.
Et on descendra tout en bas et on continuera comme ça.
Ça
mais ça n'empêche pas le réseau d'assainissement de fonctionner. Par contre, on avait effectivement l'arrêté d'autorisation de rejet de la station à renouveler au 30 juin 2016. Je crois qu'on avait pris un peu de retard sur cette affaire-là.
En fait, c'est le délégataire qui devait nous prévenir, nous préparer le dossier 6 mois avant. Et la Lyonnaise s'est passée à la trappe. Et du coup, on s'est retrouvé au mois de juin, on n'avait pas renouvelé notre arrêté, donc on a engagé une procédure, bois sur l'eau, qui est en cours, et on a un projet d'arrêté qui m'a été soumis récemment, et il devrait être signé donc, prochainement par le préfet de l'Oise pour une nouvelle durée de 10 ans.
Donc on voit en dessous que le prix d'assainissement en mètre cube, donc de 3,46 euros TTC, pour un prix moyen dans l'Oise de 3,59. Donc on est plutôt pas mal. On est en dessous de la moyenne pour ça. Bon. Ok. On va passer... on passe ces pages-là, là. Voilà. Attendez. Bon, ben là, on a l'énuméré habituel de ce qui est chez nous et qui n'a pas changé. Donc, je propose de passer.
Alors,
de toute façon, il est évident que tout ça est à la lecture.
Hein. Ce qui en est bon. Maintenant, la question de l'épuration, c'est quand même une station de traitement chimique du Bosphore. Donc, c'est un nouvel équipement. On a également un nouvel équipement pour traiter les boues. Donc, ça s'est formé, mais ça n'apparaissait pas sur ce RQTF 2015.
Bon, l'évolution du nombre total d'abonnements, on laisse tomber parce que c'est sans signification, c'est administrative, la baisse que vous voyez. Les prestations, ok, on passe cette affaire-là. Les volumes, bon, vous voyez qu'on a effectivement dans les volumes assujettis à l'assainissement, c'est-à-dire qui ont été traités, au niveau de l'assainissement, on a une baisse. Bah, tout simplement, là aussi, on a des fuites, on a de l'eau pluviale.
Les sources.
On est en réseau unitaire, il y a une période de sécheresse, donc on en a eu moins.
Voilà.
Bon, mais il n'y a pas de signification particulière là derrière. On voit que la station, c'est ce que vient de dire Ferrou, c'est une 4000 équivalent habitants.
Alors, sachant qu'un habitant vaut pour 0,8. Donc, 4691, on était toujours bon. Mais avec les travaux qu'on vient de faire là, d'une part sur les réseaux, d'autre part sur le phosphore et le système de traitement des boues, on vient de passer, ça reste à confirmer, mais à 4600 équivalents habitants. Sinon, donc on a retrouvé de la marge.
Donc on a retrouvé de la marge parce que sinon on est en traitement, on est à 8000 équivalents habitants, alors que la capacité nominale était de 4000. Donc on est en train de se remettre en ordre. Là on est passé à 4666.
Donc ça on peut passer. Ok. Tac. Évolution des volumes traités. Bon bah c'est pareil, hein, ça suit la même logique que tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Enfin, j'en ai pas plus loin. Voilà, on voit que les débits moyens journaliers ont baissé, mais. Effectivement, puisque le reste a baissé, quand on divise par le nombre de jours, ça a baissé. Alors là, c'est là où on doit voir, oui, le PT. Alors PT, pardon, hein, c'est pas P petit t, vous avez une colonne, c'est en fait le phosphore. C'est là où on était très juste, parce qu'il faut être inférieur à 2,43 grammes ou milligrammes, enfin je ne sais plus quelle est l'unité ou microgramme, j'en sais rien, 2,5. Là, on était à 1,67, mais l'année d'avant, on était excessif. C'est pour ça qu'on a dû mettre en place un système de traitement de phosphore. Et pour info, cette année, sur 2016, on doit être à 0,30 ou 0,40.
On est à 0,37, donc on est très bas. Du coup, comme on est en période d'essai, on a mis un max de chlore pour réduire chlorure ferrique pour réduire ce phosphore. Et ça a été tellement efficace que dans l'application est très bas. On a 0,37, donc du coup, on va utiliser, on va consommer moins de chloriférique, moins de courant, donc ça va être aussi un gain dans l'exploitation de la station, et ça devrait se voir après sur la rémunération du délégataire, c'est la logique.
Voilà. En tout cas, vous voyez que sur toutes les normes, on est nettement en dessous. La dernière ligne, ça vous donne les concentrations maximales, les objectifs de rejet, et vous voyez que dans toutes les catégories, on est nettement en dessous. Donc tout va bien. Vous voyez, c'était 25 pour je sais pas quoi, DBOS là, et on est à toc, on est à 3 quoi. Bon, voilà. Bon, on peut continuer. Bon, oui, continue. Ouais, là, il n'y a rien de particulier à dire. On voit qu'on a produit un peu moins de boue. Bon, ok, très bien.
Ça c'est normal, ça c'est en 2015, on n'avait pas la nouvelle
centrifugeuse,
et on en a encore moins maintenant.
Oui. Ouais.
C'est ça le problème c'est les œufs.
Alors on va arriver, il y a un graphique en dessous. Voilà, top. Vous voyez là, comparaison des pourcentages des volumes d'eau parasites entre collectivités. Et c'est là où on n'est pas bon, quoi.
Ah oui, là, oui.
Typiquement, c'est ce qu'on nous reproche. Il faut qu'on baisse.
Il y a des connexions de gouttières aussi. On a un cœur de ville avec des gouttières sur la route. Et normalement, les règles d'aujourd'hui, c'est traiter les eaux sur la parcelle. Donc tout ça aussi, il y a une mise, il y a un programme de mise en conformité. Chaque fois que ce sera possible, on va essayer de lancer ça dans le courant de l'année. Entre deux tranches de travaux, de relancer les gens qui sont concernés pour leur demander s'ils peuvent recueillir les œufs d'orgue ou plus sur la parcelle quand ils peuvent. Pas forcément en cœur de ville comme ça, c'est pas forcément possible, mais pour ceux qui sont par exemple en zone pavillonnaire ou autre, pour leur demander s'ils peuvent recueillir leurs œufs sur la parcelle. Pour eux, c'est différent.
Et si les personnes refusent, comment ça se passe?
Je pense qu'il y a des sanctions, il y a des sanctions qui sont prévues de mémoire. Hein, l'agent de l'eau nous a dit qu'elle pourrait doubler pour cette personne-là le montant de la redevance.
Mais oui. Évidemment, il n'y a pas besoin qu'un réseau unitaire, effectivement.
Bah, oui.
Les eaux pluviales peuvent être versées sur le caniveau. Oui, mais elle retourne.
Elle retourne
au
collecteur. Elle retourne au collecteur. Elle retourne au collecteur unitaire.
Ça vient de la. De la commune.
Ah oui, oui, non, mais c'était comme ça avant, c'est assez énorme. Mais ça change que notre station de déclaration, elle n'était pas conçue pour 8 000 habitants, mais pour 4 000. Donc automatiquement.
Typiquement, en ayant mis un réseau pluvial rue de la République, là, on va gagner.
Hein?
Sachant que là, on voit bien qu'on est en retard. Et que cet excès d'eau, finalement, qui est traité alors qu'il ne devrait pas l'être,
voilà,
eh bien, ça surcharge la station.
Pour la rue.
Et ça nous coûte de l'argent.
Ça nous coûte de l'argent.
Pour les travaux de la rue, qui vont être entrepris, ça va être fait, ça.
On aura un réseau unitaire.
Est-ce que le réseau va être séparé?
Alors, attendez, j'y reviens. Alors, pour la rue Juliette-Adam, on était tout à l'heure en discussion avec... on va recevoir les propositions là, de marché. De cahier des charges, et en fait on essayait de mettre un morceau de pluvial au moins au bas de la rue de Paris, et on ne pourra pas. Géographiquement, c'est pas possible, ça se terminerait à 16 cm sous la couche d'enrobé, là c'est pas possible, donc on est en train de regarder d'autres solutions. On est en train de regarder d'autres solutions à ce niveau-là, sur le bas de la rue de Paris. Hein. Malheureusement, on ne pourra pas être beaucoup plus performant à cet endroit-là. Sur au moins cet endroit-là. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus? Non, c'est tout. C'est bon. Alors oui, pardon, Monsieur Floury, vous aviez posé une question. Vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Là, j'ai répondu et vous... Ah oui, où on a raccordé le pluvial de la rue de la République. Alors en fait, on l'a raccordé, on a pris un morceau, on a été rue Saint-Pierre, et on l'a raccordé sous le plateau surélevé, à l'endroit où passe le Dalou, à 4 mètres de profondeur. Là. Et on a d'ailleurs retrouvé tout l'itinéraire du Dalou dans le parc, où on en a profité pour mettre des regards de visite, maintenant, pour pouvoir nettoyer ça. Le Dalou est encore en bon état.
C'est quoi un Dalou?
Un Dalou, c'est en pierre. C'est très vieux. Alors, j'ai pas de date, moi, hein, mais...
Comme les aqueducs.
Mais il est plus loin.
Il est plus loin.
C'est l'autre
de Charlemagne, non ? Il est de l'autre.
Ah oui.
Voilà.
Sur l'autre bord.
Et là, il y a des gros travaux à faire aussi sur cet endroit-là dans le parc.
Dans le parc ?
Oui.
Il n'a pas été fait hier.
Non, c'est pas là, c'est plutôt sur l'assainissement qui passe là, parce qu'il y a beaucoup d'eau parasite qui y va.
Ouais.
Non,
le
puits, ça va.
L'eau des fossés qui traversent le parc pour aller directement à
l'ouest. Oui. Non, là, ça va.
Il vient de la rue des Remparts.
Sur le premier, on s'est branché. Sur le seul autofond.
Ils sont branchés.
Ouais. On est branché sur celui, bah tu sais bien.
Et donc, si tu veux ce fossé-là, il y avait le lavoir où maintenant il y a le transformateur électrique. Il traversait la route et continue, ils sont branchés.
Tu me sens.
Il y a ce fossé dans la rue des Remparts.
Tu as raison.
Il y en a un derrière.
Il y en a un autre derrière. Mais bien plus, il est sur. Il vient
derrière, il repart sur le parc là-haut.
Il vient des HLM.
Ouais. Voilà.
Et il traverse le parc au niveau de la piste de danse et l'entrée.
Celui qui est au fondage en arborie.
Voilà.
Le
fondage en arborie, pour dire un parcours, il traverse Mermoz.
Bon, on n'y a pas touché celui-là hein, pour l'instant. Alors, on va continuer là. On va aboutir sur les prix. Il va nous permettre de voir que la collectivité n'a rien... Non, si elle a augmenté d'ailleurs. Voilà, je vais te laisser commenter la composante de la facture pour
en fait, ce qui est bon, c'est qu'on n'est pas des autres augmentations de taxes qui ont été par l'agence de l'eau. Nous, on a passé, vous voyez, en 2014,
Le mètre cube, on prenait 0,8772 par mètre cube pour le budget des cibles. Et bon, jusqu'au 1er janvier 2015, donc, le 1er février 2015, on est passé à 1,1434 pour le constituer donc des fonds propres pour financer la part résiduelle. Et qui est importante pour les travaux que nous avons engagés lors de la session, parce qu'il nous reste une part minimum de 20% de nos charges.
Vous avez fait l'objet d'un courrier.
C'est beaucoup, là, ça, ça fait une grosse...
Ouais.
Il n'empêche que c'est un gros pourcentage.
Oui, c'est, ça passe plus. C'est un gros pourcentage.
Ouais. 20%.
En fait, l'augmentation, on a augmenté de 0,2682. Voilà. On a mis 0,2682 à 0,8772 et on arrive à 1,1434.
Enfin, pas sur
et
la facture.
Déjà, non, sur ce truc-là, ils ont sorti. C'était jusqu'en 2012. Sauf qu'en 2012, il n'y a pas dû équilibrer le budget haut. Le CIOM a fait l'opération inverse. Ils ont réduit la surface d'assainissement pour ne pas que la facture d'eau soit. Non, 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 pas la facture. Soit plus lourde, mais donc du coup là on est resté stable pour le potable, on n'a pas augmenté, il n'y a pas besoin, mais par contre le sentiment on n'a pas le choix parce que là jusqu'à présent on a vécu un peu sur nos...
Mais elle avait augmenté avant.
L'eau elle avait augmenté avant, ah. Oui, donc maintenant c'est l'assainissement qui a besoin d'augmenter parce que les budgets ne sont pas interchangeables. Les budgets de l'eau ne peuvent pas financer l'assainissement.
On baissait le prix de l'eau. Et puis on augmentait voilà, en fonction des besoins.
En fonction des besoins.
Des besoins financiers. Pourquoi augmenter trop le prix de l'eau? Mais là, je vois que le prix de l'eau a augmenté, oui. Et le prix de l'assainissement, il a aussi augmenté.
Mais il y avait beaucoup de travaux à faire.
Et nous avions déjà fait tout ça en bas de l'ombre.
Oui,
hein,
oui. Non, mais
il y avait déjà eu beaucoup de travaux à faire.
Il y avait beaucoup de choses de faites sur Saint-Va.
Tout Saint-Va, il n'y avait pas tout à l'égout. Hein, et on avait fait tout à l'égout de Saint-Va. Et toute la zone industrielle a été faite.
Madame Fusée, maintenant, qui est en tête, parce qu'elle dit que cet argent-là, c'est pour Verdurie.
Oui, mais chacun son tour.
Chacun son tour.
Bien.
Ah bah oui.
On va descendre, on va voir l'évolution du prix. Là, il y a un petit diagramme qui est plus bas. Voilà, là, encore plus bas. Il y a celui-ci, effectivement, mais il y a celui-ci qui permet de comparer, de replacer la collectivité dans la moyenne de l'Oise et dans le maximum de l'Oise. Bon, vous voyez qu'on est dans la moyenne, en fait. Hein. 3,46, 3,59, on est dans la moyenne. Bien.
90 ou quelque chose comme ça. Enfin.
Bon, on peut passer cette affaire-là.
Pardon.
Et encore l'eau serait bonne, mais pas bonne parce qu'elle prend le Ricard.
Bien, on y va. Ouais, les recettes de l'exploitant qui ont un peu baissé, c'est pas significatif. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On va pas les passer un par un. C'est la connaissance patrimoniale qui a chuté parce que on exige maintenant qu'on connaisse plus de choses. Bon, donc on va travailler là-dessus. Voilà. Donc on voit qu'on n'est pas bon. En ce moment, on est à 15, alors que la moyenne est à
47,51.
Très bien, on y va. Oui, on avance. Ce point-là.
Ok.
Sur 120. Oui.
Alors, les points noirs, mon couleur, il n'y en a qu'un. Hein,
oui.
Ils sont bien bois. C'est là que c'est la connaissance patrimoniale, même de commande du réseau de collecte.
Bon, le taux d'impayé, on retrouve les mêmes chiffres que tout à l'heure. Pour l'eau, parce que.
Ah, Alors là, c'est là qu'on importe la dette. Hein. La dette est en plus pour encore 1 000 000 d'10 ans. Et c'est là qu'ils battent pièce parce qu'ils ont les prêts ont été contractés à l'époque où les taux étaient élevés. Et malheureusement, les contrats ont été conclus avec l'absence de clause de la renégociation. Donc quand les prix ont baissé, que j'ai voulu le renégocier, on m'a demandé des indemnités de 400 à 500 000 euros pour l'ensemble de la dette en concours. Donc j'ai utilisé, c'était pas jouable. Donc là, c'est... Voilà, par contre, on n'a pas encore fait de nouveaux emprunts. Pour les travaux de l'année 2017, j'attends de connaître le résultat du compte administratif 2016 pour savoir ce qu'il nous reste en excédent. On a parlé de demande de subvention à tous les organismes. Et puis, on verra comme les taux sont bas pour boucler le budget, l'opportunité soit de faire un petit emprunt qui est un petit emprunt comme c'est sont faits actuellement. Je préférais recourir à l'emprunt plutôt que d'augmenter encore la surtaxe si on arrive à conclure des emprunts un peu intéressants, à laquelle j'ai déposé notamment le fait à 1% pour l'assainissement. Mais bon, tout ça, ça sera vu dans le cadre du budget. Pour l'instant, je n'ai pas encore tous les éléments pour vous dire comment il sera fait.
Bien, maintenant, on va aller sur les perspectives. Donc, c'est plus bas. C'était les perspectives 2015. Hein. Bon, alors, travaux de mise en conformité de la station. Donc, en fait, c'est fait. Donc, tout ça, ça a été réalisé depuis cet été. Les travaux de réhabilitation des postes de refoulement et du réseau, donc rue Gustave Bouffé et rue de la République.
Alors, les postes de refoulement vont être faits cette année. On a fait des études techniques sans réaliser. Là, on va passer à l'élaboration du document de consultation des entreprises. Donc, ça, c'est. On a acheté les terrains. Les études géotechniques sont faites. Il n'y a plus qu'à mettre d'œuvre, à mettre en place. Le dossier de consultation des entreprises sera fait cette année.
Après, il y avait effectivement la vanne de crue automatisée sur le rejet du collecteur unitaire de la rue des Soupirs et la mise en place de sondes ultrasons au niveau des déversoirs d'orage, mais je crois qu'on est en train d'adopter des solutions plus simples, sachant qu'on aura probablement des travaux Mageo derrière.
Et pourquoi on a les déversoirs d'orage, on les a recouverts cette année. Parce qu'il y avait une espèce de. C'est profond, mais il y a des espèces de dalles qui sont dessus pour empêcher que les gens, les enfants ou autres, tombent dans des trous. Et donc, cette année, on a profité des travaux qu'on a fait à la station d'opération pour mandater l'entreprise. Et là, ils ont vraiment un très très beau travail. À la fois, ils protègent bien des postes et qui permettent à la société lyonnaise de l'exploitation aisée.
Bon, ensuite, il y avait l'amélioration de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale, on l'a évoqué. Le renouvellement de l'arrêté préfectoral, il a été évoqué, il est en train de se terminer, cette affaire-là. Et ce qu'on a en assainissement cette année, hormis la rue de Paris et la rue Juliette Adam, c'est évidemment les postes H2S qui doivent être construits pour l'un Alexis Carrel et l'autre rue des Moulins. Donc là, on est vraiment dans la phase construction et mise en place.
Voilà.
Après, il y a une série d'annexes derrière, que, voilà, de résumés, d'annexes. Et évidemment, tous ces dossiers, vous pouvez les consulter. Enfin, vous les avez reçus de manière informatique, oui. Donc vous pouvez les relire. Si vous avez des questions, posez les questions que vous avez.
Vous pouvez les poser lors de notre séance, hein, si ça vous interpelle. Vous pouvez les envoyer les questions, puis je vais vous préparer la réponse.
RPQS 2015 qu'on présente un peu en retard, puisque normalement on aurait dû le présenter avant le 1er janvier 2017. Enfin, c'est pas trop mal quand même.
Le premier rapport qui nous a été fourni était insuffisant, donc on a demandé qu'il soit un peu plus étoffé, un peu plus clair. Et rien dont on les a reçus il y a très peu de temps, donc c'est la raison pour laquelle on veut lui donner un ordre de jour de cette séance.
RPQS, question ? Encore une fois, vous les avez, vous les lisez. Si vous avez des questions, vous revenez vers nous. Et vers Madame la Présidente du CIVOM, tout en rappelant que, avec notre passage dans l'agglomération de la région de Compiègne,
nous allons perdre la compétence assainissement au 1er janvier 2018 et la compétence eau potable au 1er janvier 2019.
Selon le calendrier qui a été arrêté à ce stade, donc si on, l'eau, par exemple, si qu'on tienne, de mon point de vue, comme c'est une compétence nouvelle à cette mise en eau, l'ARC n'avait pas cette compétence jusqu'à présent, si les services sont faits avant, ils peuvent intégrer la compétence avant. Mais le calendrier pour trouver. Pour l'assainissement, c'est certain que le 1er janvier 2018. Donc, on a encore la main cette année, donc on essaye de faire un maximum de travaux, puisqu'on a la main, après on aura beaucoup moins.
Et c'est la dernière année, on peut toucher des subventions du conseil départemental. Il nous avait déjà prévenu que quand on était, serait dans l'arc, c'est terminé.
C'est terminé.
Pour l'assainissement.
Pour l'assainissement.
Ok, point suivant d'information, Audit de la bibliothèque, quelques mots.
La bibliothèque, c'est un lieu qui offre la culture plaisir, la culture loisir pour tous. Nous avons une culture diversifiée avec des, un panel de présentation de livres qui nous est proposé par la médiathèque départementale de l'Oise, mais également parce que nous avons une politique d'achat qui nous permet de proposer beaucoup de choses à nos lecteurs. Donc c'est une culture d'information qu'on leur présente, mais aussi de l'apprentissage. On permet aux lecteurs qui s'inscrivent sur le site de la médiathèque départementale d'avoir accès à un service qui s'appelle le kiosque. Et donc là, il est possible de s'y inscrire pour des apprentissages divers et dans des domaines complètement différents, par exemple le code du permis de conduire, des cours d'anglais, des cours de maths, du terminal. Enfin voilà, il y a tout un panel de choses. Donc la bibliothèque, c'est aussi un endroit de rencontre, de convivialité, puisque nous y organisons maintenant des manifestations telles que la fête du jeu, les contes d'automne, et cette fois-ci, pour la première année, la nuit des bibliothèques. Et bien entendu, c'est une culture de proximité et gratuite pour tous. Nous accueillons également les habitants de Saint-Bas, et nous avons une convention de partenariat avec Saint-Bas. La bibliothèque est maintenant informatisée depuis le 1er janvier 2017. Tout se passe bien. Il n'y a pas de souci particulier quand nous avons la connexion Internet qui fonctionne bien. Parce que, bien évidemment, quand nous n'avons pas de connexion, c'est très gênant, étant donné que nous n'avons plus de fiches papier. Je peux vous donner maintenant quelques chiffres sur l'évolution des prêts et de la fréquentation globale. Donc, si je pars de 2012, nous avions 1444 usagers pour 2515 prêts. L'année la plus faste, c'est l'année 2015. Nous sommes passés donc au niveau des usagers à 3973 pour 6031 prêts. En 2016, ça a un peu baissé. Nous sommes passés à 3732, mais nous avons eu l'effet travaux également. Concernant les inscrits, nous sommes passés en 2012 à 52 en nombre de lecteurs inscrits, à fin 2016, à 675. Mais dans ces 675, tout le monde ne fréquente pas la bibliothèque régulièrement. Il y a aussi des personnes qui viennent simplement pour pouvoir avoir accès au kiosque. Et au niveau de la fréquentation donc individuelle, nous sommes passés de 864 adultes en 2012
à 1255 adultes en 2016 et pour les enfants de 580 à 1124. L'année dernière, nous avons eu 118 personnes supplémentaires inscrites en ayant 64 enfants et 54 jeunes. Voilà, puis après, bon, il y a encore des stats, mais je vous fais grâce des statistiques.
Merci.
Donc la bibliothèque, c'est un service qui accueille maintenant les écoles régulièrement, la crèche, la MJC, et puis qui va à la rencontre des résidents de Résidoise. Donc la bibliothèque, elle est, je dirais qu'elle est à l'image de la ville, elle est en pleine mutation. Et je vais vous faire lecture de la conclusion qui est en fait un texte de la NGO. Donc la bibliothèque doit être un lieu de service avant tout, mais aussi un lieu de rencontre, de formation de vie. Et la bibliothèque doit s'adapter à son territoire et ses publics, à chacun de créer son modèle.
Merci. Très bien, bravo.
La petite question, lorsque les écoles viennent à la bibliothèque, est-ce qu'ils utilisent le tableau numérique ?
Alors le tableau numérique est utilisé quand on reçoit les classes,
ouais.
Quand on reçoit la MJC, pas beaucoup pour la crèche, parce que pour la crèche, on est plutôt à la lecture papier et carton. Oui, voilà. Mais le tableau...
Il est utilisé régulièrement.
On va l'utiliser à la nuit des bibliothèques. Donc la nuit des bibliothèques, c'est le 3 février, vous êtes tous invités. Et là, on va faire une présentation justement de l'utilisation du kiosque de la MDO sur le tableau interactif. Alors, il est probablement moins utilisé que dans les classes. Encore que dans les classes, je ne sais pas comment, quelle est la fréquence d'utilisation. Mais de toute façon, on s'en sert tout de même régulièrement.
Ok, bravo. La séance est levée. Il n'y a pas de questions diverses, pardon.